Bonjour chers auditeurs. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et je voudrais reprendre le thème avec lequel nous avions terminé la dernière émission. Elle parlait du baptême. Et je voudrais approfondir un petit peu ce sujet aujourd'hui avec vous pour que les choses soient bien claires. Alors, le baptême dont je vais vous parler, bien entendu, c'est le baptême biblique, c'est-à-dire le baptême tel qu'on peut le lire dans les Saintes Écritures, sans y apporter de déformation quelconque. Premier point sur ce baptême, il a été institué et ordonné à ses apôtres par Jésus lui-même. Alors nous allons lire d'abord dans Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Jésus dit ceci à ses disciples: Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, dans ce texte, il dit: Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, la vision de Jésus, c'est de faire des disciples, et ces disciples, eh bien, pour être vraiment des disciples, doivent passer par le baptême. Actes, chapitre 2, versets 38 et 39, Pierre leur dit, là c'est l'apôtre Pierre qui parle, Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, pour Pierre, les choses sont claires, il y a plusieurs étapes. La première, c'est de se repentir. La deuxième, c'est le baptême au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Et ensuite, c'est le fait de recevoir le don du Saint-Esprit. Voilà. Actes, chapitre 10, versets 47 et 48. C'est encore Pierre qui parle et qui dit: Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Voilà, on parle encore évidemment du baptême. Il s'agit là de non-juifs, Corneille et ses amis, qui viennent de recevoir le Saint-Esprit alors qu'il leur annonçait les merveilles de Dieu. Et puisqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, il n'y a aucun obstacle évidemment à ce qu'ils prennent le baptême d'eau. Ça, c'est le premier point. Le baptême fait partie du processus de la conversion, du processus de la vie chrétienne. Et il arrive de suite après la repentance et juste avant, normalement, le baptême du Saint-Esprit. Deuxième point, comment se pratiquer ce baptême? Alors nous allons lire un passage qui se trouve dans Actes chapitre 8, versets 26 à 48. Actes 8, versets 26 à 48. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, Philippe l'évangéliste, lui dit: Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de la reine Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: Avance, et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci: Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe: Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se retrouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Voilà donc une petite histoire qui concerne un homme qui est pieux, qui aime Dieu et qui est allé à Jérusalem pour adorer. Donc, c'est quelqu'un qui est bien disposé. Et il a acheté un ouvrage, un rouleau, sur lequel était copié un texte de Ésaïe 53. Vous pourrez le retrouver effectivement dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53. Et ce passage, évidemment, parle de Jésus-Christ. Philippe lui explique les choses et son cœur étant bien disposé, il voit de l'eau, il demande à être baptisé. Voilà, très simplement. Et donc, le baptême s'adresse évidemment à tous ceux qui sont prêts, qui acceptent Jésus, qui aiment Dieu, qui veulent marcher dans les voies de Dieu et qui sont décidés à suivre les enseignements du Seigneur et ses préceptes. Je parle de ce texte parce que il est bien précisé qu'ils sont arrivés dans l'eau et il est dit qu'ils sortirent de l'eau. Ce qui montre que le baptême consistait en une immersion totale du corps du baptisé. Le baptême biblique est un baptême par immersion, pour plusieurs raisons. S'il s'agissait d'une immersion, d'une aspersion, quelques gouttes trouvées dans une flaque auraient suffi. L'immersion totale est confirmée par d'autres textes que nous verrons, Jean 3, 23, Matthieu 3, 16, etc. Nous verrons ça un petit peu plus loin. Martin Luther, Jean Calvin, Bossuet, Karl Barth, le chanoine Martigny, le chanoine Crampon, qui est connu parce qu'il y a une Bible à son nom, il a traduit la Bible à sa façon, et bien d'autres encore attestent de façon certaine que le baptême dans les premiers siècles se faisait par une immersion totale. Les sites archéologiques prouvent de façon irréfutable que les baptistères des trois premiers siècles étaient façonnés pour permettre à une personne d'être complètement immergée. On en trouve des traces un peu partout dans le monde, à Emmaüs en Israël, mais aussi en France, à Poitiers, Fréjus, Millau dans l'Aveyron, Aix-en-Provence, Lyon, et puis aussi hors de France, à Carthage, Rome, Constantinople, en Tunisie et dans toute l'Afrique du Nord, à Pise, en Italie, etc. Bon, donc ces vestiges archéologiques prouvent de façon irréfutable que le baptême se faisait par immersion. Autre point, Jésus a parcouru 120 km pour être baptisé par Jean-Baptiste, car Jean-Baptiste baptisait à un endroit où il y avait suffisamment d'eau. On voit ça dans Jean chapitre 3, verset 23. Jean chapitre 3, verset 23, où il est dit « Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. » Donc, pas besoin de beaucoup d'eau pour une aspersion, c'était bien donc pour une immersion. Et on y venait, dit le texte, pour être baptisé. Jésus aurait-il fait tout ce chemin si quelques gouttes d'eau sur un front pouvaient suffire? Matthieu, chapitre 3, verset 16. Matthieu, chapitre 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Là encore, comme pour l'Éthiopien, il sort de l'eau. Donc, il y avait suffisamment d'eau. Et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Nous voyons que comme pour le ministre éthiopien, Jésus sortit de l'eau, donc il y avait beaucoup d'eau, au moins jusqu'à la taille. Donc, premier point que nous avons évoqué, c'est que Jésus demande de baptiser les gens. Deuxièmement, ce baptême doit se faire par immersion. Et troisièmement, eh bien, le baptême des enfants n'est pas scripturaire. Il n'est pas conforme à la Bible, aux enseignements de la Bible. Ce baptême des enfants avait un double but. Le premier était de faire de tous les habitants du pays des catholiques, qu'ils le veuillent ou non, ce qui arrangeait bien les gouvernants qui avaient la main mise sur le clergé, et aussi le clergé qui, avec l'aval des autorités, pouvait ainsi accroître sa domination sur le peuple. Le deuxième but était, en direction des fidèles, que si l'enfant venait à mourir, étant baptisé, il irait au ciel, au paradis. Cela rassurait les parents, à une époque où la mortalité infantile était très élevée. Mais, écoutez bien cela, ces deux conceptions sont complètement erronées, à savoir que jamais le baptême ne sauve. Je répète, jamais le baptême ne sauve. Il faut d'abord être sauvé pour être baptisé et non l'inverse. D'autre part, il faut d'abord passer par la repentance, Actes chapitre 2, versets 38 et 39, que nous avons déjà lu, et je reprends juste quelques mots, un petit passage qui dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Repentez-vous d'abord et que chacun de vous soit baptisé ensuite. » Marc 16, verset 16 « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Voilà, dans ce passage encore, il est très clair qu'il faut d'abord croire avant d'être baptisé. Ce qui sauve, c'est la foi en Jésus. C'est comprendre ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre pour les hommes et c'est accepter de croire que son sacrifice sur la croix, à notre place, nous sauve de nos péchés. Je vais lire Actes chapitre 8, verset 37. Actes 8, 37. Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Nous l'avons lu dans le texte tout à l'heure. Il est clair qu'un bébé ne peut ni se repentir, ni croire à un message qu'il n'est pas en âge de comprendre. Il ne peut exercer librement sa volonté, ni même l'exprimer. Par conséquent, le baptême des enfants est absolument contraire à ce que enseignent les textes du Nouveau Testament. Et c'est là que nous faisons une petite pause musicale. Nous reprendrons la suite de cette courte étude dans un instant. Voilà, je vous reprends pour le quatrième point. Le quatrième point, c'est le baptême s'adresse évidemment à des adultes qui sont capables d'écouter la parole de Dieu. Actes chapitre 2, verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le livrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Voilà donc le message que les hommes doivent accepter. Ces adultes, eh bien, doivent accepter la parole. Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ceux qui acceptèrent sa parole. Un enfant, évidemment, ne peut pas accepter une parole qu'il ne comprend pas. Il s'agit donc bien d'adultes. Ensuite, il est question dans Acte 2, verset 44, « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. » Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Il s'agit bien de foi. Et puis, il faut qu'ils soient, ces adultes, capables de décider. Actes chapitre 8, verset 12, « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » Quand ils eurent cru à ce que Philippe leur disait, quand il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, il est très important de croire avant d'être baptisé. Autre point. Alors, on trouve curieusement un baptême très antérieur à celui de Jésus, ou préconisé par Jésus. C'est dans Lévitique, au chapitre 14 et verset 8. « Si des disciples de Jésus ont baptisé conformément à sa parole, le baptême par immersion a été pratiqué déjà dans l'Ancien Testament, dans ce texte de Lévitique, chapitre 14 et verset 8. » Où on lit ceci, « Celui qui se purifie se baignera dans l'eau. » Ce baptême avait pour but de purifier, en fait, les souillures du corps, mais pas les souillures de l'âme. Donc, c'est un baptême quand même très différent. D'ailleurs, le mot baptême n'y est pas écrit en toutes lettres. Hein. C'est une interprétation que l'on peut trouver dans certains commentaires. Jean-Baptiste a baptisé, lui, du baptême de repentance. Alors, j'ai toute une liste là de versets. Si vous voulez les prendre en note, vous pouvez. Donc, Jean-Baptiste a baptisé du baptême de repentance. On retrouve ça dans Matthieu chapitre 3, versets 5 à 10. Marc chapitre 1, versets 4 et 5. Luc chapitre 3, versets 3 et verset 7 et chapitre 7, verset 29, Jean chapitre 4, verset 1, Actes chapitre 1, verset 5, verset 10, non pardon, et 10, verset 37, chapitre 11, verset 16, chapitre 13, verset 24, chapitre 18, verset 25, chapitre 19, verset 3, et je crois que c'est tout, alors il me manque une référence. Peu importe. Le baptême de Jean-Baptiste venait du ciel, Luc 20, verset 4. Jean-Baptiste, dit le texte, avait pour mission spéciale... Non, c'est pas le texte. Jean-Baptiste avait pour mission spéciale de préparer la voix du Messie. Il était la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur ». On trouve ça dans Luc, chapitre 20, verset 4. Sa prédication avait pour thème la repentance, on trouve ça dans Luc chapitre 3, verset 8. Il avait aussi pour thème la confession des péchés, Matthieu 3, verset 6. Il avait aussi pour thème la foi en celui qui devait venir, c'est-à-dire Jésus, Actes 19, verset 4, pour offrir le sacrifice agréé de Dieu et ôter ainsi le péché du monde, Jean 1, verset 36. Au baptême de transition de Jean-Baptiste succéda le baptême de la nouvelle alliance fondée sur la foi en l'œuvre de Jésus, qui avait donné sa vie sur la croix pour le pardon des péchés. Là encore, la repentance précède le baptême. On ne va pas rentrer dans le détail de tout ça, puisqu'on en a parlé précédemment tout au long de cette étude sur la croix de Jésus. Acte 2, verset 38, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Nous l'avions déjà signalé, ce texte. Voilà. Sixièmement, l'exemple de Jésus. À l'âge de 30 ans, Jésus quitte ses parents pour se rendre auprès de Jean-Baptiste, au fleuve du Jourdain, près de Jéricho, afin de se faire baptiser par lui. Avant de commencer sa mission, Jésus a trouvé bon de se faire baptiser. Si Jésus l'a fait, alors nous aussi, nous devons le faire. Il nous a donné un exemple à suivre. Comment se fait-il que Jésus, le seul homme dans lequel il n'y avait aucun péché, ait ressenti le besoin de se faire baptiser par Jean-Baptiste? Jésus n'a pas besoin de se repentir de ses péchés. Il n'a pas besoin d'être rendu meilleur, car Jésus est pur et sans tache. Cependant, il se mêle au peuple d'Israël qui vient se faire baptiser. Il s'assimile au peuple et à tous les pécheurs, car il est venu pour prendre sur lui les péchés du monde. Jean-Baptiste refuse de baptiser. Mais Jésus lui dit simplement « Cela est convenable et juste ». Donc Jean-Baptiste s'exécute évidemment, sans trop comprendre pourquoi lui, le pur, Jésus, accepte ce baptême de repentance qu'il pratique. Quand Jésus sort de l'eau, un phénomène visible apparaît. Les cieux s'ouvrirent, dit le texte, et l'Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Matthieu chapitre 3, verset 16. C'est l'Esprit de Dieu qui descend en lui. Puis une voix se fait entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Quel est le chemin normal pour un homme ou une femme qui s'approche de Jésus? Alors ça, c'est important, écoutez-le bien. Quel est le chemin normal pour un homme ou une femme qui s'approche de Jésus? Premier point, comprendre qui est Jésus et comprendre son œuvre. Évidemment. Deuxième point, se repentir de ses péchés. Troisièmement, accepter Jésus comme son sauveur. Ça aussi, nous l'avons développé, donc je n'insiste pas. Accepter Jésus-Christ comme son Seigneur, c'est-à-dire accepter qu'il nous commande et que nous soyons ses serviteurs. Cinquièmement, être baptisé par immersion. Sixièmement, confesser publiquement son appartenance désormais au royaume des cieux. Septièmement, recevoir le Saint-Esprit. Huitièmement, s'engager à servir Jésus-Christ en tout temps et en toutes circonstances. Voilà donc les 8 points qui constitue le chemin normal pour un homme ou pour une femme de s'approcher de Jésus. Et j'ai presque envie de vous les relire parce qu'ils sont très importants. 1. Comprendre qui est Jésus et comprendre son œuvre. 2. Se repentir de ses péchés. 3. Accepter Jésus-Christ comme sauveur. 4. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur. 5. Être baptisé par immersion. 6. Confesser publiquement son appartenance désormais au royaume des cieux. 7. Recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et 8. S'engager à servir Jésus-Christ en tout temps et en toutes circonstances. Il reste une autre étape très importante à ne pas oublier, c'est de couper tous les liens contractés lors de notre vie passée. Liens dus à nos mauvaises fréquentations, à nos mauvais comportements, à nos mauvaises pensées. Et il y a aussi, alors certains combattent cette idée, mais il y a aussi certains liens héréditaires. Ce travail est absolument indispensable, il doit être fait si possible avant le baptême, sinon bien juste après. Point suivant, septièmement, le baptême est un acte d'obéissance, acte 2.38, c'est aussi un symbole, mourir à soi-même et au péché et renaître en Christ pour une vie nouvelle. C'est la raison pour laquelle nous devons être immergés, c'est symbolique. C'est la mort à soi-même, la mort au péché et renaître en Christ. On peut voir ça plus en détail dans Romains chapitre 6, versets 3 à 6. C'est en quelque sorte passer de la mort à la vie, c'est changer de camp, passer du camp du diable dans le camp de Dieu. Troisième point, c'est un engagement, c'est la confirmation, la concrétisation de l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. 1 Pierre chapitre 3 verset 21. C'est l'entrée dans la famille des rachetés. Acte 2 verset 41. Le baptisé fait à présent partie de l'Église universelle de Jésus-Christ et il participe dans l'Église locale à la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Acte 2, verset 42. On peut voir aussi les versets 44 et 46. Et puis, une confession de foi. Acte 8, verset 32. Huitième point, le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Acte 2, verset 38, Acte 10, verset 48, Acte 8, verset 16, Acte 19, verset 5, ou bien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Matthieu, chapitre 28 et verset 19. En conclusion, le baptême n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un terminus, au contraire, il est un commencement, un nouveau départ dans la vie. Il ne nous épargnera pas les épreuves, mais désormais Christ est avec nous dans ces épreuves, et nous avons désormais une merveilleuse espérance, celle de le servir en attendant d'être unis à lui pour toujours, dans son royaume. Alléluia. Le baptême sans compréhension, sans repentance, sans décision, sans engagement et sans confession n'est plus qu'un bain. Voilà. Eh bien, nous terminons cette émission avec cette conclusion. Je serai heureux de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau thème très court. Et en attendant, je vous souhaite à chacun une excellente semaine. Soyez bénis dans le nom de Jésus et à bientôt.